Comprendre aujourd'hui pour inventer demain. Des électrons libres vous racontent leur chemin.
Électrons libres by Ezeo. Tous les troisièmes dimanches du mois, à 19h, sur Radio Campus Angers 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Électrons Libres, l'émission qui explore les métiers du numérique, de l'ingénierie et de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Je suis Alexandre et avec Anne, on est super content de vous partager ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est aussi fascinant que crucial hein, à l'ère du numérique, c'est la cybersécurité. Donc on a la chance de recevoir une invitée particulièrement bien placée pour en parler.
Elle s'appelle Anne-Laure Ledamani, elle est ingénieure Ezeo et elle occupe aujourd'hui un poste stratégique au sein de l'un des plus grands groupes bancaires européens, la Société Générale. Et dans ce géant français du CAC 40, elle pilote la cybersécurité et la gestion des risques informatiques à l'échelle mondiale. On n'a pas dit de bêtises déjà jusque-là.
Non, ça claque. Hein,
Nicolas. Parfait.
Donc du coup, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. On est ravis de te recevoir et pouvoir discuter de ton parcours et des grands enjeux de la cybersécurité aujourd'hui. Alex l'a justement souligné, tu es ingénieur Ezeo. Ouais. Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu es rentré en école d'ingé?
Absolument pas.
Ouais.
Absolument pas. Je ne voulais me fermer aucune porte. Et donc, alors, à l'Ezeo, moi, j'ai fait une spécialité informatique.
Ok.
J'étais intéressée au départ par les métiers, tout ce qui tournait autour de décodage du génome humain, etc. Donc,
plus biotech.
Rien à voir avec là où je suis aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas biotech à l'époque où, parce que moi, je suis diplômée de 2003. Donc, ça commence à dater un petit peu. Il n'y avait pas toutes les options qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de choix, donc j'ai fait génie informatique, réseau et télécom.
Okay.
Mais je ne savais pas du tout où ça allait me mener. Et l'objectif, c'était, comme l'informatique est appliquée à peu près partout, de pouvoir faire de l'informatique là où je sentais que j'avais envie de le faire.
Trop cool. Et après, tu as rejoint la Société Générale pas très longtemps après tes études.
Alors, j'ai été diplômée, c'était une époque un petit peu de creux dans les recrutements de profils ingénieurs. Donc, j'ai eu le choix entre attendre la bonne opportunité ou prendre un peu un travail, le premier qui se présentait.
C'est dingue que ça existait une période de creux.
Ouais, si, oui. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré un petit peu quand même.
Ouais.
Et j'ai fait le choix d'aller travailler dans une entreprise, en l'occurrence, qui produisait des logiciels de trésorerie bancaire. C'était à destination de populations pas du tout informatiques, les trésoriers dans les grandes entreprises. Et j'ai fait du support informatique sur des produits, sur des logiciels. C'est hyper formateur. Hyper formateur en pédagogie, en écoute, en compréhension et puis en recherche de solutions. J'ai fait ça pendant, je sais plus, 8-9 mois, quelque chose comme ça. Et après, je suis rentrée en prestation dans une société de services qui était une des voies et qui existe encore aujourd'hui, une des voies royales pour intégrer quand même des entreprises. Et j'ai été placée en prestation à la Société Générale. Tout à fait. Okay. Donc, ça doit être en juin 2004, je pense, quelque chose comme ça.
Okay. Et ensuite, comment t'en es venue à être responsable?
J'ai fait ma prestation, c'était sur de l'administration système, en particulier les systèmes Windows.
Ok.
Donc assez technique, hein. Et puis au bout de 2 ans à peu près, mon responsable de l'époque m'a dit, est-ce que ça te dit de rester et d'intégrer le groupe? Alors moi, comme j'aimais ce que je faisais, j'aimais bien les gens avec qui je travaillais, j'ai pas réfléchi beaucoup plus loin. J'ai dit oui, on va voir.
Ouais.
Je savais qu'il y avait dans l'entreprise des mobilités, c'est-à-dire des possibilités de changer de poste à fréquence plus ou moins régulière, entre 3 et 5 ans. Donc, je me suis dit, de toute façon, si jamais j'en ai marre à un moment donné, je pourrais aller faire autre chose. Et puis, le monde est vaste aussi. Donc, je me sentais pas engagée pour... ça fait 19 ans maintenant, à la Société Générale. Mais voilà, donc c'est plus par opportunité, des portes qui se sont ouvertes, des gens avec qui j'ai envie de travailler. Et puis, j'y suis allée, quoi.
Et aujourd'hui, l'intitulé de ton poste exact, il n'est pas forcément évident à comprendre.
Ouais.
C'est Deputy Global CISO. Donc CISO pour Chief Information Security Officer.
Oui.
And Head of IT RM pour IT Risk Management.
Tout à fait.
Donc déjà, première question, pourquoi on met toujours les titres de, en anglais, comme ça, les titres de poste
c'est une bonne question. En fait, je pense que quand j'ai commencé sur mes postes à la Société Générale, dans l'IT, j'étais orientée sur des... Enfin, j'étais orientée... Il y a plusieurs activités dans une banque. Je ne vais pas vous faire l'histoire de toutes les activités bancaires, mais il y a notamment la banque d'investissement et qui a une dimension très internationale. Et donc, en fait, comme j'ai commencé en, en fournissant des services IT pour cette activité-là de la banque, bah, c'est vrai que beaucoup de choses se sont assez naturellement faites en anglais. Et je pense que je n'ai jamais fait le retour arrière de passer en français.
Et du coup, comment, aussi.
Comment tu c'est plus stylé, oui. Et quand tu le traduirais
c'est pas calculé pour.
en français, comment t'expliquerais ton poste
Alors, j'ai deux casquettes, deux rôles qui sont pas forcément liés l'un à l'autre directement. Le premier, donc député CISO, c'est je suis adjointe au responsable en charge de la sécurité des systèmes d'information, donc la cybersécurité. Mmh. Donc, il y a une personne qui a le rôle de titulaire et qui est responsable. Et donc, moi, je suis l'adjointe. Et il y a le deuxième rôle qui est la gestion de tout ce qui est risque informatique. Alors, c'est pas forcément des risques proprement informatiques, mais c'est des risques qui sont en lien avec l'informatique. Donc, j'explique, il y a des risques évidents comme les risques de prod, les risques cyber, mais il y a aussi les risques RH. Parce que quand on n'a pas les bonnes compétences, on n'arrive pas à fournir des services informatiques. Donc, ça englobe un petit peu tous les risques.
C'est un spectre hyper
large. C'est un spectre très, très large. Ouais. Et ce rôle-là, ces deux rôles-là sont transverses sur toutes les activités de la banque. Ce que je disais tout à l'heure, c'est il se passe plein de choses dans la banque, et pas que la banque de détail qui est la façade la plus connue. Mais on voit toutes les activités. Donc, à travers cette casquette-là, je sais à peu près tout ce qui va et en l'occurrence ce qui ne va pas dans l'informatique de
du
la
banque. Le fait d'être resté quand même longtemps dans cette banque, tu as quand même une vision qui t'aide au quotidien, vu qu'il faut avoir une vision assez globale sur toutes les...
Alors, ça m'aide en termes de réseau, déjà, parce que je connais beaucoup de gens. Et donc, quand il faut aller chercher des informations, comprendre des situations, je peux aller voir les bonnes personnes. Et puis, oui, effectivement, il y a des cas où les gens me racontent des histoires et je leur dis non, ce n'est pas l'histoire que je connais.
Ah oui.
Donc mais c'est parce qu'on t'a fait la version un peu résumée. Oui, très bien, je comprends la version résumée. Maintenant, je voudrais qu'on aille au cœur du problème. Ça peut aider. Ouais.
Génial. Et pour les gens qui seraient moins familiers avec tout ce qui est informatique, est-ce que tu peux nous donner la différence entre cybersécurité et management des risques informatiques?
La cybersécurité, c'est un risque IT, comme d'autres. La gestion des risques IT, ça va être gérer, par exemple, les interruptions de système. Il y a une panne informatique quelque part, il faut qu'on comprenne ce qui se passe et qu'on fasse repartir le service. Donc, il y a un risque d'interruption de service qui est associé à cette situation-là. Par exemple, une panne électrique, peut générer un système qui tombe et donc ça génère une interruption de service. Ce risque-là, il faut le couvrir. Le risque cybersécurité, il est connu. Il est connu, les gens voient à peu près ce que c'est. C'est quelqu'un qui accède à l'informatique en interne, qui accède à vos mails, qui accède à votre compte bancaire. Et donc, c'est un risque comme un autre dont on doit se prémunir et empêcher les gens d'atteindre leurs objectifs. Le risque RH, j'en ai parlé. Si on n'a pas les bonnes compétences, on ne peut pas livrer les services. Donc, la cyber est un risque IT, entre guillemets, comme les autres, même si c'est souvent le plus gros. Ouais. Parce que c'est quand même, aujourd'hui en tout cas, celui qui fait le plus peur aux gens.
Ok. Et tout à l'heure, tu disais, toute la carrière que tu as fait à la Société Générale, tu connais beaucoup de monde. Ça représente combien de personnes à peu près, la SG, on se rend compte, un ordre d'idée de combien de personnes travaillent à la Société Générale?
Alors, combien de personnes travaillent à la Société Générale? Il y en a 140 000 à peu près partout dans le monde. Après, tout le monde ne fait pas de l'IT. Il y a, je n'ai pas envie de dire de bêtises, parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais pas, entre 7 000 et 8 000 personnes peut-être qui traitent de l'IT, peut-être 10 000 dans ces eaux-là à peu près. Okay.
Mais tu me diras, les 140 000, c'est autant de personnes à se sensibiliser, en fait.
Oui.
Sur tous les enjeux.
Oui.
C'est monstrueux.
Oui. D'autant plus que la banque n'est pas un métier informatique, donc les conseillers dans les agences, etc., c'est des gens qu'on doit aider à appréhender ces problématiques-là pour qu'ils puissent, eux, faire leur travail. On est un moyen, on dit un enabler, on aime bien dire ça, pour que les gens puissent faire leur travail de banquier à la fin, puisque c'est l'activité du groupe. On n'est pas un métier IT à la base.
Ouais.
C'est chouette, j'aime bien la vision. Enabler. C'est très sympa.
Et
après, il faudrait leur demander s'ils le vivent pareil.
Et tout à l'heure, on parlait d'une interview précédente que tu as faite. Et dans cette interview qu'on a écoutée, tu dis la cybersécurité, c'est avant tout une question de bon sens. Mm. On ne ferait pas derrière un ordinateur ce qu'on ne ferait pas dans la rue.
Ouais.
Alors pour toi, ce serait quoi les trois essentiels à faire pour se protéger? Si tu avais trois trucs vraiment...
La partie la plus importante que nous, on a, c'est nos informations. Mm. Qui on est, nos données bancaires, nos données de santé, tout ce qui est données personnelles, parce que c'est vraiment ce que les attaquants vont aller rechercher, soit pour faire des usurpations d'identité, soit pour vous dire j'ai volé toutes vos données, si tu veux les récupérer, faut que tu me les rachètes.
Blackmail.
Voilà, c'est des choses comme ça. Donc la première chose, mais enfin c'est pareil, dans la rue on se met pas à distribuer sa carte bancaire, sa carte d'identité sur le trottoir.
Mmh.
Donc sur le milieu informatique c'est pareil. Je vois les nouvelles cartes d'identité, elles permettent, enfin il y a une fonctionnalité qui permet de, quand on ouvre un contrat, l'autre jour j'ai voulu faire une procuration sur la poste, d'accord, la poste demande une copie de la carte d'identité, dans ces cas-là il y a deux cas possibles, l'ancienne méthode entre guillemets, on fait une photocopie de sa carte bancaire, voire on a déjà un PDF stocké quelque part dans un coin et puis on l'envoie à la poste, et là en fait on leur donne notre pièce d'identité telle qu'elle existe. Si un attaquant accède au site de la poste, récupère notre carte bancaire, copie de carte bancaire, carte d'identité, il peut l'utiliser pour faire la même chose ailleurs. Les nouvelles cartes d'identité permettent d'apposer un filigrane qui dit « Ceci est pour la poste, valable de telle date à telle date ». Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est fait. Donc, du coup, quand on envoie ça à la poste, ça ne peut être utilisable que dans le cadre, dans le contexte dans lequel on a envoyé. Okay. Donc, il y a des moyens de se protéger. C'est vraiment la partie la plus importante, c'est se protéger soi. Après, il y a tout ce qui est image au sens photo, vidéo, etc. Faut contrôler son image. C'est vrai que, bon, sans vouloir verser dans la crainte de faut pas mettre ses photos sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup d'attaquants qui ont des scénarios où ils vont chercher des informations et des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Et avec l'IA aujourd'hui, ils peuvent vous faire et dire n'importe quoi.
C'est assez effrayant, j'ai vu ça.
Il y a des vidéos où ils prennent des photos d'enfants et puis ils en font ce qu'ils veulent en faire. Ils prennent des vidéos de vous en vacances et puis ils vous font dire des choses qu'ils n'ont pas envie de dire. Aujourd'hui,
maman,
avec l'IA...
Maman, j'ai besoin d'aide, verse 20 000 euros.
Il y a ça. Mais ils peuvent aussi mettre des vidéos qui vont nuire à votre image, ou faire dire des choses que vous n'auriez jamais dites en temps normal. Il suffit d'une vidéo et d'un échantillon de voix. Et ils font ce qu'ils veulent. Donc, faut vraiment protéger ses informations et son image. Mmh. Après, le reste, on fait pareil dans la rue, en fait.
Mmh.
C'est pour ça que je fais le parallèle entre les deux. Dans la rue, les gens ont le réflexe. Dans le monde informatique, il n'est pas encore partout. Ouais.
Et encore, moi, je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, on peut quand même un peu voir les vidéos IA, moi, je trouve. Mais je pense que d'ici quelques années...
La vidéo
années,
de Brad Pitt qui s'est fait...
Ça, c'était un peu cramé.
Bah oui, mais
quand même.
C'est...
Enfin, je veux dire, un œil un peu...
Bah oui, mais non. Toi, tu dis, c'est cramé. Mais la dame qui s'est fait avoir...
Oui.
Il y a un employé en Asie qui a cru qu'il avait été convoqué à un conseil d'administration et que son PDG lui demandait en live de verser je sais plus combien de millions d'euros. Il l'a fait. Tout ça, c'était fake.
J'ai entendu parler de ça aussi, ouais.
Donc, faut pas sombrer dans la paranoïa en disant « je mets plus rien, je fais plus rien, machin, etc. » Faut juste être conscient du risque pour essayer d'être mesuré dans ce qu'on fait.
Ouais, des précautions, quoi.
C'est ça.
Okay.
Du bon sens.
Et du coup, ça se traduit concrètement comment une attaque cyber?
Alors, il y a plusieurs types d'attaques. Il y a les attaques, je vais en citer deux types, enfin trois. Il y a le phishing, que tout le monde connaît. Donc, on vous envoie un mail.
C'est le livreur.
Alors, ça peut être un texto. Oui, j'ai un colis pour vous, cliquez là. Bon, la probabilité qu'on soit tous en train d'attendre un colis est quand même assez forte. Donc, on ne va pas réfléchir, on va cliquer sur le lien. Bah, si, il faut réfléchir. Tiens, c'est bizarre, c'est la première. D'habitude, Amazon ou UPS, où ils ne m'envoient pas des messages comme ça, c'est bizarre. Et les mails, c'est effectivement un point d'entrée aussi. C'est votre 14e relance, vous n'avez pas payé votre amende, payez ici, cliquez ici, sinon vous allez avoir un huissier qui va sonner à votre porte. Bon, ça marche pas comme ça. Et là encore, c'est du bon sens, c'est de se dire, mais il fonctionne pas comme ça aux amendes, ils envoient des courriers. Si je vais sur le site des amendes, je vais voir si effectivement il y a un truc qui me concerne. Donc ça, c'est le premier type d'attaque, c'est souvent un point d'entrée pour aller faire autre chose. Mais bon, ils cherchent à rentrer par tous les moyens qu'ils peuvent, soit chez vous dans votre espace personnel, soit dans une entreprise. Parce que toutes les personnes à éduquer, comme tu disais tout à l'heure, ça marche à la maison, ça marche aussi dans les entreprises. Il y a le même risque. Alors après, dans les entreprises, on met tout un tas de mécanismes de protection, même si quelqu'un clique, ben, en fait, ça passe pas. Mais à la maison, c'est pas forcément vrai. Et donc, souvent, ça va rentrer par là. Donc, des choses qu'on a déjà entendues 50 fois, c'est faut pas cliquer sur les liens, faut se poser la question, disant, tiens, c'est bizarre. Si c'est bizarre, il y a forcément une raison. Si le sentiment que vous avez dit, tiens, c'est bizarre. Voilà. Moi, j'ai eu des gens qui me, je l'ai dit, je crois, dans le podcast, hein, des faux conseillers bancaires qui m'ont appelé, qui m'ont prédit la fin du monde sur mes comptes bancaires. Ben là, le réflexe, c'est de dire, attendez, je vous rappelle, on raccroche et on appelle le numéro de son agence qu'on connaît. Ouais. Et là, bah, le conseiller bancaire a deux solutions. Soit c'est vraiment lui avec qui vous étiez au téléphone il y a 30 secondes et là, il va vous dire, c'est la fin du monde. Soit il va vous dire, ah, non, c'était pas moi. Et vous êtes en train de vous faire attaquer.
Et au final, c'est des petits gestes qui peuvent... C'est pas grand-chose à faire, mais...
C'est pareil quand il y a un mendiant qui vient vous voir dans la rue et vous savez qu'il y a eu des... Alors, je veux pas stigmatiser des populations, mais il y a eu des groupes de populations étrangères qui venaient vous tirer par la manche d'un côté et vous piquer dans votre sac de l'autre. Une fois que ça s'est su, bah, on fait attention. Bah, là, c'est pareil, on fait attention. Il y a les attaques, ce qu'on appelle de déni de service. C'est-à-dire que bah, là, en fait, on va vous envoyer une... Mais pour une entreprise, mais on va bourriner vos services jusqu'à les faire s'écrouler.
Ils ont eu ça.
La Poste, c'est un bon exemple.
Des milliards de connexions par seconde.
Voilà, et ça fait s'écrouler en fait le système qui héberge bah, les services. Le site web, bah, il tombe. La banque en ligne, bah, elle tombe. Le site du ministère pour la mairie, bah, il tombe. Pour l'école, bah, il tombe. Voilà. Donc, bah, ça fait, c'est surtout des impacts d'image. Alors, il y a deux cas possibles. Soit ils ont juste prévu de faire ça, ils ont fait tomber votre site, ils sont contents. Soit en fait, ça masque autre chose, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de rentrer. Et alors là, c'est l'attaque plus compliquée, c'est quand ils arrivent à rentrer et leur objectif, c'est de récupérer des données. Donc, pour se faire de l'argent. Donc, soit ils vont les revendre, soit ils vont les voler, les encrypter, ils vont vous demander une rançon pour les payer. C'est le rançon logiciel ou rançon ransomware.
Ok. Et par exemple, la Poste, c'est possible de se prémunir du fait que s'il y a des milliers de personnes qui essayent de se connecter en même temps, ça ne fasse pas tout tomber?
Comment oui, il existe des solutions fournies notamment par des entreprises tierces qui fournissent des solutions, ce qu'on appelle anti-DDoS. Donc, c'est sur un type d'attaque, comme je viens d'expliquer. DDoS, c'est Distributed Denial of Service. C'est une attaque particulièrement organisée pour faire tomber les services.
Okay.
Et il existe des entreprises qui sont connues hein, sur le marché, qui vont aller analyser le trafic entrant. Et quand ils détectent des patterns de DDoS, bah, ils le bloquent.
Okay.
Donc, eux, ils savent le détecter, le bloquer, et ça protège les services derrière. Alors, je présume pas de, est-ce que la Poste en avait un ou pas, est-ce qu'il était efficace ou pas, j'en sais rien, hein, j'ai pas été vérifié.
Okay. Mais en tout cas, c'est le cas le plus récent, je crois, enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un an peut-être, ou, ouais.
Ou moins que ça, c'était il y a quelques semaines, quelques mois.
Je crois que c'est régulièrement.
C'était juste avant Noël ou quelque chose comme ça, je crois. Ils en ont eu plusieurs d'affilée.
Okay.
Vous écoutez Électron Libre by Ezeo sur Radio Campus Angers.
Et est-ce que quand il y a des attaques comme ça, tu peux savoir facilement d'où elles viennent?
Non, pas forcément. Alors, bah, il y a ceux qui revendiquent, voilà, c'est bon, en général. Oui. Alors, il y a ceux qui revendiquent, mais en fait, c'est pas eux. Bon, voilà, il y en a pas beaucoup. Il y a ceux qui revendiquent en disant c'est moi, je l'ai fait. Et en général, ils expliquent pour quelles raisons ils l'ont fait.
Ouais.
Donc là, c'est assez simple de comprendre la situation. Il y a des fois où on sait pas.
Mais c'est possible de tracer?
Bah, ça dépend de, on va dire, la compétence technique de l'attaquant pour masquer son point d'origine. S'il n'est pas très doué, ça nous est arrivé, en faisant des investigations suite à des incidents qu'on avait eus, d'identifier très précisément la personne qui l'avait fait et de l'attraper.
C'est chouette.
Mais ça, ce n'est pas des grands groupes organisés en général. Ouais, c'est
des adolescents dans
leur chambre. Alors, pas forcément des adolescents, mais des gens qui sont moins organisés ou qui connaissent peut-être moins aussi nos mécanismes de défense et d'investigation et qui se font avoir.
Et du coup, là, tu parles de grands groupes. Est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu peux nous partager tout simplement combien d'attaques ou de tentatives d'attaques par jour, par semaine, par mois, par exemple, là, j'ai subi?
Alors, j'ai pas le chiffre. Il y en a beaucoup. Hein, ouais. Et il y en a beaucoup qu'on voit pas du tout. L'immense majorité, on les voit pas. Je parlais du DDoS tout à l'heure. Ouais. Alors, ils nous préviennent. Attention, vous avez un truc bizarre qui est en train d'arriver, mais on vous a protégé. Mais non, j'ai pas le chiffre en tête. Non,
mais
je sais pas.
Ça doit être monstrueux.
Il y en a. Ouais. Après, le volume varie en fonction de plein de choses, la Société Générale est pas forcément le groupe le plus attaqué en France. Y a un contexte géopolitique. Les alliés d'un pays qui est en guerre avec un autre allié va peut-être, en fonction de ce que le président ou le ministre des Affaires étrangères va dire ou de ce que le Trump va dire, on va voir un volume arriver. Sur les JO, on a eu un volume plus important que... Voilà, donc c'est bah, y a eu les JO d'Italie, là, qui ont, juste avant l'ouverture, qu'on dit qu'ils avaient eu effectivement des tentatives d'attaque sur leur système parce que bah c'est visible en fait un attaquant c'est ça enfin les attaquants ils sont professionnalisés c'est leur carte de visite moi j'ai réussi à faire tomber le site des JO le jour de l'ouverture bah c'est une carte de visite par contre pour le RSSI des JO c'est pas un bon truc donc c'est un combat la cyber c'est un peu le je sais plus où j'avais entendu dire ça mais je suis d'accord c'est le un peu l'une des seules activités dans l'IT où il y a vraiment un méchant en face
C'est vrai.
Et quand tu dis c'est un peu une carte de visite d'avoir réussi à faire tomber une grosse structure comme ça, est-ce que justement parfois il y a des hackers ou des gens qui font des cyberattaques qui peuvent ensuite utiliser cette carte de visite pour dire parce que par exemple il y a des entreprises où il y a des gens qui font du pentest et qui testent justement la résistance.
C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes qui attaquent et c'est pas les mêmes qui font les pentests.
Est-ce que quelqu'un qui dit bah moi j'ai réussi à pirater ça, regardez je suis très fort, est-ce qu'ils peuvent ensuite se faire recruter par des boîtes justement pour faire du test?
Alors je connais pas leur parcours de carrière. Après j'ai tendance à me dire que si un attaquant a un CV avec plusieurs années où il était plutôt malveillant pour se faire recruter dans une entreprise de pentester. Ouais.
Oui, mais après, lui, il a
Je suis pas dans les recrutements des pentesters de ces entreprises-là, mais j'aurais tendance à me dire, c'est bizarre, qu'est-ce qui me garantit que vous êtes vraiment passé de l'autre côté, en fait? Mais bon, peut-être que...
Mais d'un autre côté, il a peut-être les bons réflexes aussi pour penser à des chemins qui sont pas...
Alors, il y a des profils similaires, mais du côté des gentils. Qui vont effectivement faire des travaux similaires. Il y a les pentesters, il y a les gens qui sont dans les red teams, il y a ceux qui font du bug bounty, donc ceux qu'on paye pour aller identifier des failles sur les systèmes exposés. Et en fonction de ce qu'ils trouvent, et ben, ils sont payés plus ou moins une somme élevée. Et tout ça, ça contribue à faire évoluer les défenses et à faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possible. Mais on part du principe que c'est des gentils. Parce que on va pas ouvrir la porte à quelqu'un. Enfin, on a peut-être pas forcément envie de payer quelqu'un pour qu'il vienne découvrir nos failles avec l'intention d'être malveillant derrière.
Nous, on voulait savoir, est-ce qu'il y avait une attaque au cyber qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière?
Alors, je fais de la cyber depuis 3 ans.
Ah, ok.
Avant ça, j'ai fait de l'IT, donc j'ai pas une expérience de 10 ou 15 ans sur l'IT, sur la cyber. Donc une attaque cyber qui m'a marquée personnellement dans mon expérience professionnelle, pas forcément. Par contre, je me souviens d'avoir assisté à un témoignage du RSSI de l'hôpital de Corbeil-Essonnes il y a quelques années, qui lui avait été vraiment bien bien dans la tourmente avec des attaquants qui avaient fait tomber le système informatique de l'hôpital. Ça avait été dans les journaux, etc. Et là, voilà, déjà respect au bonhomme, hein, parce qu'il a géré la situation. Et puis c'est ce qui était effarant de mon point de vue, hein, c'est que des attaquants s'attaquent à des hôpitaux, il y a des vies humaines derrière, hein. Donc là, ça m'avait marqué, mais plus parce que je trouvais qu'en termes de
valeur d'éthique,
de malveillance,
ça se fait pas, quoi. Ouais, non pas que les attaques sur les autres se font, mais là, voilà, il y a des gens qui étaient branchés à des machines pour survivre et potentiellement leur vie ont été mises en danger encore plus. Donc sur la cyber, pas forcément. Sur la prod IT, oui, j'en ai plein. Plein.
Ok, ça marche. Et quand on fait de la cybersécurité, je suppose, enfin, on t'en parlait un petit peu tout à l'heure, une des principales composantes, c'est quand même de prévenir plutôt que guérir, donc essayer de prévenir un peu les risques qui sont possibles. Mais parfois ça c'est pas possible, on n'arrive pas à tout prévenir les risques et du coup il y a une attaque comme ce que tu disais avec ce monsieur dans un hôpital et donc on imagine que quand ça arrive et qu'il y a parfois des vies en jeu ou des choses comme ça, enfin, toi à la SG il n'y a pas forcément des vies en jeu, mais tu dois quand même être sous une grosse pression quand ça arrive, quand il y a un blocage comme ça, une attaque. Et donc ma question, c'est comment tu fais pour gérer cette pression, ou par exemple ce monsieur qui a géré sa pression monumentale avec un blocage comme ça dans l'hôpital, comment on fait, parce que c'est assez stressant au final?
Oui, c'est stressant. Après L'objectif, c'est de rétablir le service. Donc, tout le monde se mobilise pour aller dans cette direction-là. Mmh. Donc, il faut établir un plan. Enfin, c'est sûr que si le stress nous paralyse et bah, que ça, ouais. face à une difficulté, on est incapable de réfléchir, ça arrive, hein, je critique pas les gens que ça arrive, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le bon job ?
Il faut avoir du sang-froid quand même.
Parce que bah, ce qui est attendu aussi quand on fait de la prod, quand on fait de la cyber, quand on est face à des situations comme ça de, bah, de risque de, d'interruption de service, il faut avoir la capacité de, d'aller outre ce, ce premier stress et de construire un plan d'action. Et construire le plan d'action. Alors, on ne construit pas tout seul. Hein, il y a des équipes, il y a plein de gens qui savent plein de choses. Et bah, l'idée, c'est de dire, alors on va faire ça d'abord, ensuite on va faire ça, et puis on va le faire comme ça, et puis ça va prendre, ça, ça va prendre 2 heures, ça, ça va prendre 3 jours, ça, ça va prendre 2 semaines. Et puis on construit le plan comme ça, toujours avec l'objectif, le premier objectif, c'est de rétablir le service. Mmh. On peut très bien, si on s'est fait piquer les données, redémarrer le service sans historique. Peut-être que c'est possible. Donc, dans un premier temps, rétablir le service. Et puis ensuite, regarder comment est-ce qu'on peut remettre en place progressivement toutes les fonctionnalités qui manquaient et le temps que ça prendra. Et ce qui est hyper important, c'est de communiquer. Communiquer aux utilisateurs, communiquer à toute la chaîne managériale pour expliquer ce qu'on est en train de faire.
C'est super intéressant. Et du coup, au travail, on parle de plus en plus de santé mentale.
Ouais.
Toi, est-ce que tu as quelques petits bons réflexes, quelques petites astuces pour justement... être plus serein face à cette pression. Je sais pas, méditation, sport.
Je fais pas de méditation. Mon chef me dit que je devrais faire de la méditation.
Ah, mais...
mais j'en fais pas. Je sais pas.
Ouais, t'arrives à être. Dans
je prends du temps pour moi en fait. Alors, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être aller au cinéma, ça peut être aller voir des amis, ça peut être rester chez soi au coin du feu avec une tasse de chocolat. Chacun son truc en fait. Moi, j'aime bien ralentir. Trouver des moments où bah, le rythme, justement, il se ralentit. Je suis plus tributaire de ce qui se passe au boulot, ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe avec les uns, les autres, etc. Voilà, 1 heure, 2 heures, le week-end.
T'arrives à déconnecter, quoi.
Ouais. En tout cas, moi, c'est ce qui me ressource. Après, chacun va connaître son... Il y en a qui ont besoin de faire des marathons tous les 3 mois. Il y en a qui voilà, vont monter en haut de l'Everest. Il y en a qui vont aller à la plage avec un livre. Chacun son... Mais c'est important de se connaître par rapport à ça parce que ça permet aussi d'établir où est la limite et de pouvoir anticiper quand on approche de ces limites pour pas aller jusqu'à la rupture. Alors, ça paraît facile à dire comme ça. Il y a plein de gens qui vont jusqu'à la rupture. Hein, et encore une fois, je suis pas du tout en train de juger. Mais donc aujourd'hui, j'ai un rôle managérial avec les gens. Enfin, je gère les équipes et je cherche ces limites avec eux pour être justement en mesure de les aider à anticiper quand ils arrivent au point de rupture et de désamorcer avant d'arriver au point de rupture. Ça ne marche pas à tous les coups. Et puis, il y a aussi la vie personnelle qui vient s'interfacer de toute façon avec la vie professionnelle. Mais on ne fait rien sans les gens. Les gens, c'est la ressource la plus importante qu'on puisse avoir dans une entreprise. Donc, c'est ça qu'il faut choyer en premier. Et si on ne fait pas attention aux gens, on n'y arrivera pas.
Surtout que j'imagine que quand il y a des crises comme ça, ça peut être des rushs de travail hyper longs sur peut-être pas plusieurs jours.
C'est l'organisation. J'ai souvenir, alors c'était pas un incident cyber, c'était un incident de prod, d'avoir récupéré un incident de prod un samedi soir. Il a dû arriver vers 22h30, un truc comme ça. Et puis, on est tous mobilisés au début. Là, du coup, il y a tout le monde au début. Et puis après, quand on se rend compte, comme tu dis, que ça va durer des heures, voire là, en l'occurrence, on savait que ça allait durer des jours, on s'organise. Alors toi, tu prends jusqu'à 7h demain matin. Moi, je vais aller me coucher. Je prendrai à 7h demain matin. T'iras te coucher. Et puis, à 12h30, 13h, eh ben, c'est quelqu'un d'autre qui prendra. Ou toi, si tu reviens. Et puis, on essaye de s'organiser. C'est hyper important. Le plus difficile, c'est les gens qui sont dedans et qui veulent pas lâcher. Mais je suis presque au bout. J'ai presque fini. Ouais, mais enfin, t'en as peut-être encore pour 2 heures.
Typiquement, je serais comme ça. Bon.
T'en as peut-être encore pour 2 heures. Clair, donc, de toute façon, on va te mettre en backup avec quelqu'un pour les 2 prochaines heures. Si vraiment tu veux pas partir, parce qu'on peut pas forcer les gens à décrocher. Mais voilà, si à un moment donné, on constate que t'es en baisse, bah, tu pars. Tu t'en vas. Parce que après, on fait courir un risque à la personne, évidemment, qui arrive en phase d'épuisement. Et puis, il y a le risque d'erreur humaine derrière. Oui. Quand on est fatigué, on est quand même moins concentré.
C'est clair, ouais.
Donc, on est plus à risque de faire des bêtises. Donc, à un moment donné, c'est à nous aussi de dire non, stop. En fait, là, tu t'arrêtes. Même si tu n'as pas envie, tu t'arrêtes. Parce que c'est à quelqu'un d'autre de prendre le relais. Tu vas prendre le repos que tu as besoin. Puis après, il y a des contraintes légales. On n'a pas le droit de faire travailler les gens pendant des heures et des heures et des heures. Ouais. Et ça, c'est le dernier argument en général. C'est légalement, tu n'as plus le droit de travailler. Donc, tu rentres chez toi.
Mais c'est génial que tu arrives, toi, avec ton niveau de responsabilité, avec ton niveau de management, à savoir prendre le temps. c'est pas quelque chose qui est inné.
Prendre le temps pour moi?
Ouais. Prendre le temps.
Bah c'est pas le choix. C'est si on a toujours le choix, mais parce que je sais que sinon je vais partir en rupture.
Ouais.
Donc ça sera plus viable pour moi, pour mes proches, au travail. Et puis à la Société Générale, comme tu disais, on n'a pas de vie directement entre les mains, même si on peut avoir un impact systémique s'il y a des choses très graves qui se passent. Enfin, malheureusement, on l'a vu. Mais aujourd'hui, et c'est ce que je dis à mes équipes, on n'a pas de vie entre les mains. Donc, prenez du recul. On est une équipe. Donc, de toute façon, si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre arrivera à le faire. On arrivera à s'organiser pour qu'il y ait une continuité et que ça tourne.
Okay.
Tout en préservant la valeur de chacun et tout ce qu'ils apportent, parce que c'est un équilibre.
Oui, c'est super.
Ouais. Et il y a une autorité nationale qui existe qui s'appelle l'ANSSI,
oui.
L'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information, oui. Dont tu fais partie.
C'est un organisme à part, mais par contre, on travaille avec eux.
Travailles avec eux, ouais. D'ailleurs, avec plein de gens qui ont un poste similaire au tien, oui. Vous travaillez un peu tous ensemble. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert cette agence?
Ils jouent un peu le rôle de, je vais pas dire régulateur sur la partie cyber, mais en tout cas, ils ont des expertises, ils sont là pour poser des cadres, ils sont là pour donner des bonnes pratiques, des standards, ils sont là pour aider aussi les gens qui sont en difficulté. C'est une autorité qui est reconnue sur la c'est un organisme français.
Ouais.
C'est reconnu sur la place française. Donc ils sont connectés avec le gouvernement, ils sont connectés avec les entreprises, ils sont connectés avec les fournisseurs.
OK.
Donc ils sont je suis pas experte sur l'ANSSI, mais en tout cas, je les vois interagir là-dessus. Bon, ils envoient régulièrement, ils postent régulièrement des documents d'analyse sur des situations, sur des tendances, sur des recommandations et ça aide un peu tout le monde à se positionner aussi.
Ok. Ouais, c'est intéressant.
Du coup, quand on voit l'actualité, il y a un contexte géopolitique qui est, ma foi, extrêmement tendu. Toi, ça impacte vraiment le travail. On a vu des fois qu'il y avait la temporalité, notamment avec les JO, tu en as parlé tout à l'heure.
Ouais.
Mais là, typiquement, avec tout ce qui se passe, imaginons en Amérique, est-ce que toi, tu ressens qu'il y a un peu plus de tension dans ce que tu fais au quotidien?
Il y a un contexte géopolitique, il y a des groupes d'attaquants qui sont sponsorisés par des États, c'est pour ça que je disais qu'ils sont professionnalisés aussi, parce qu'ils portent une conviction. On voit des groupes d'attaquants qui sont connus, on les voit dans les journaux, ils disent « moi j'attaque telle entreprise dans tel pays parce qu'ils soutiennent tel pays contre lequel mon pays est en guerre ». Donc on sait que, par exemple, la guerre, le conflit Ukraine-Russie, la France a pris position, donc les groupes qui sont à l'encontre de cette position, potentiellement, ils peuvent venir nous attaquer. Il peut y avoir des intérêts économiques aussi, c'est pas forcément géopolitique. Les Coréens, les Chinois, on sait très bien qu'ils essayent de faire des choses sur des pays qui sont plutôt sur la partie occidentale.
Ok.
Donc oui, on voit une professionnalisation et un sponsoring des États sur certaines tendances géopolitiques et économiques. Ouais.
Ouais, je trouve ça super intéressant.
Et pour rester un peu dans l'actualité, il y a un autre comportement qui émerge de plus en plus aujourd'hui, c'est l'usage de l'IA.
Ouais.
Je crois que c'est 2/3 des personnes dans le monde qui utilisent l'IA quotidiennement. Et 92% des étudiants, d'ailleurs, qui ont recours à l'IA générative.
De manière plus ou moins affirmée.
Voilà.
Ouais, voilà, c'est ça exactement.
Ça, c'est quoi les risques de cet usage de l'IA en termes de cybersécurité? On a parlé tout à l'heure du deepfake.
Alors ça c'est entre guillemets les risques pour le tout à chacun, ouais. On va dire. Oui, effectivement, deepfake, c'est de l'IA et c'est en fait, allô maman, est-ce que tu peux vite me virer de l'argent parce que sinon il va m'arriver des bricoles. Bon, ça c'est un impact pour chacun. Pour les entreprises, enfin pour les attaquants d'abord, l'IA apporte une puissance supplémentaire pour professionnaliser encore plus loin et leur donner plus de puissance sur leur activité. Donc, le jour où ils seront utilisés pleinement l'IA pour développer tous les outils dont ils ont besoin dans la prochaine étape de malveillance, ou alors pour pousser plus loin des scénarios d'attaque qui existent aujourd'hui, on les verra arriver de manière un peu plus forte. On le voit un petit peu. Enfin, moi, ce que je vois à mon échelle, c'est il y a 4-5 ans, les mails de phishing, ils étaient truffés de fautes, d'orthographe. Oui, des fois, il n'y avait pas de verbe dans les phrases. Ça n'avait ni queue ni tête. Là, aujourd'hui, quand on regarde des mails de phishing, ils sont quand même très bien faits.
Ouais.
Ils sont bien écrits, il y a les bons logos, etc. Parce que, bah voilà, il y a une forme de, alors déjà professionnalisation, et puis, bah voilà, ils ont des outils, ils se servent d'outils comme nous, hein, comme les étudiants, pour être plus précis, plus efficace, plus percutant. Et ben, bah, sur l'IA, c'est pareil, sur les mécanismes de détection et de défense, il faut aussi qu'on développe l'IA pour pouvoir nous aider, à nous défendre sur ces nouvelles méthodes, en fait, qui vont arriver avec l'IA.
Okay.
Mais bon, l'IA apporte plein de choses sur plein d'aspects. Il n'y a pas que le risque qui augmente sur la cyber. C'est une puissance pour faire plein d'autres choses.
Mmh. C'est quelque chose qui te fait peur, au contraire, vous sentez déjà préparé à...
C'est un peu les deux.
Ouais.
Parce que on ne sait pas très bien ce qu'ils vont en faire en face. Et en même temps, nous, ça nous apporte des opportunités très intéressantes aussi.
Ça, il doit y avoir un petit côté excitant quand même.
Ouais. Plein de tâches qui étaient très manuelles ou peu automatisées et donc à valeur faiblement ajoutée, on va dire, pour l'individu qui le fait, deviennent automatisables et l'IA va permettre... Bah, justement d'aller plus loin là-dedans et de concentrer les forces qu'on a, les gens qui sont quand même les équipes qui sont le plus intéressant, enfin l'asset le plus valuable, on va dire, dans les entreprises, pour faire des choses qui sont plus à valeur ajoutée. Mm. Ça va demander des profils plus qualifiés, certes.
Oui. Mais parce qu'au final, c'est des tâches répétitives qui peuvent être
aujourd'hui, on a beaucoup de profils qualifiés qui, de toute façon, font beaucoup de tâches manuelles. Mm. Donc, ça va être recentré un peu aussi ces tâches-là sur la valeur ajoutée. Mm. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, il y a forcément des menaces derrière et ça fait peur aussi sur plein d'aspects. Mais voilà, le changement, moi, me fait moins peur, on va dire. Donc, ça m'intéresse de voir ce qu'on va pouvoir en faire.
Bah, d'ailleurs, il y a une autre révolution un peu qui arrive, c'est le quantique.
Ouais.
Moi, je suis pas du tout expert en ça, mais en gros, pour résumer vraiment, un ordinateur classique, il utilise des bits de 0 ou de 1.
Ouais.
Et l'ordinateur quantique, il utilise des qubits avec des états superposés de 0 et de 1. Donc, c'est la superposition quantique. Et déjà, rien que ça, c'est assez difficile à comprendre. Voilà.
En gros, ça va beaucoup plus vite.
Bah, voilà. Donc, la puissance de calcul, elle est
démultipliée
par rapport à un ordinateur classique. En quoi, ça, c'est la même question que je te pose. En quoi, ça peut impacter ton travail?
Un attaquant aujourd'hui arrive à faire une attaque déni de service et faire tomber les services. Imagine que si tu mets un ordinateur quantique derrière, là, il peut nous faire très mal. Mais bon, c'est pas encore prêt, hein, le quantique dans la cyber. On regarde, on essaye de comprendre ce qui se passe et puis pour pouvoir s'adapter, comme on disait tout à l'heure. Mais moi, j'ai envie de croire qu'à un moment donné, si ça marche pour les attaquants, ça va marcher pour les défenseurs aussi. Donc, c'est juste qu'il faut arriver à le faire suffisamment en anticipé de manière coordonnée pour que le jour où les premiers vont arriver, on soit en mesure, un, de les identifier comme tels et deux, d'avoir des premiers réflexes, même tactiques de défense, qui vont nous permettre au moins d'éviter de se prendre quelque chose de trop difficile, même si aujourd'hui, je ne sais pas dire si c'est possible ou pas.
Ouais. Vous écoutez Électron Libre by Ezeo sur Radio Campus Angers.
Moi, je propose qu'on aborde un autre sujet, c'est les femmes dans les sciences. C'est un sujet qui nous touche particulièrement. Aujourd'hui, il n'y a que 20% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Mmh. Et en fait, avec Alex, on supposait que c'était déjà un peu moins à ton époque, au début des années 2000.
On avait 12%.
Ah, là, ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, la petite Anne-Laure de l'époque, à rentrer dans une école d'ingé?
Alors déjà, j'aimais bien tout ce qui était sciences.
Ouais.
Maths, la physique, la SVT, tout ça, c'était des trucs, bah, le décodage du génome humain, ça venait de quelque part. Et puis, j'y arrivais, quoi. Enfin, je me débrouillais plutôt bien et... En fait, je me suis pas trop posé de questions. Je savais que je voulais pas faire de littéraire, même si j'aime bien lire etc. Mais je me voyais pas passer ma vie à faire ça. J'avais envie de faire du scientifique, quoi. Mmh. Après, comme je disais tout à l'heure en intro, je me suis pas beaucoup posé de questions plus loin que ça. J'ai envie de faire ça, c'est possible. Comment je le fais? Ah bon, bah tu peux faire une école d'ingé. Ok, très bien. J'avais des ingénieurs autour de moi dans ma famille, donc c'était pas non plus en décalage par rapport à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mais c'est vrai que c'était plutôt des hommes.
Ouais, bah, encore aujourd'hui, dans les écoles d'ingé, je pense que c'est entre 15 et 20% de femmes.
Ouais, tu disais 20%.
Ouais, 20% selon le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Selon toi, c'est dû à quoi, ça? Et comment on pourrait faire pour aller chercher plus de femmes?
Alors, j'ai pas de baguette magique, j'ai aucune idée.
Ah, il n'y a pas une solution miracle, ça c'est sûr. Mais...
Je vois pas de différence de compétences entre les hommes et les femmes quand je travaille au quotidien. Franchement, chacun apporte une valeur et ça n'a rien à voir avec le fait est-ce que c'est un homme ou une femme. Et même les niveaux d'expertise, il y a des femmes qui sont très douées en IT et des hommes un peu moins. Il y a des hommes qui sont très doués en IT et des femmes un peu moins. Donc ça a rien.
Dans tes services, t'as plus d'hommes ou plus de femmes?
Ah bah j'ai plus d'hommes.
Ouais.
Beaucoup plus. Je crois qu'on est à 20 ou 25% de femmes.
Bah, comme dans les écoles d'ingé, quoi.
Ben, en même temps, enfin, on ne peut pas recruter plus que ce qui sort des écoles. Et même si on fait de la formation interne, à un moment donné, ben, on ne peut pas non plus doubler le nombre de femmes qui arrivent dans les équipes IT. Mais moi, je ne vois pas de différence. C'est okay. La même valeur ajoutée qui est apportée, le même investissement qui est donné dans les mêmes proportions. Donc, je ne sais pas l'expliquer. Comment il faudrait faire pour changer la tendance, j'en sais rien. Moi, j'ai un garçon et une fille. Mon garçon, il fait une école d'informatique et ma fille, elle veut faire vétérinaire. Donc, j'ai pas réussi à la convaincre. Mais en même temps,
c'est pas faire les yeux.
Il y a une question de choix aussi fondamentalement. Moi, je me vois pas forcer mon fils à pas faire de l'informatique et ma fille à y aller. Donc, voilà, y a une question d'appétence et d'affinité qui est probablement liée à un socle historique culturel qu'on a du mal à franchir. Hein.
C'est plus culturel que inné, je pense. Enfin, quand même, c'est pas...
C'est
dur de faire la...
En fait, je sais pas. J'ai vu dans la classe de maths de ma fille l'année dernière au collège des affiches de sensibilisation qui disaient « Fille, garçon, on a le même cerveau, on a les mêmes compétences, etc. » Donc, même quand on commence, on va dire, dans l'éducation, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que le mélange homme-femme dans l'entreprise apporte beaucoup de valeur. Parce que les problèmes ne sont pas regardés sous le même angle, même à formation équivalente. Hein.
On a le même cerveau, mais on n'a pas...
On ne l'utilise pas de la même manière, et c'est la complémentarité qui fait que ça apporte quelque chose. Ça, je l'ai vu. Je n'ai pas les stats. Il paraît qu'il y a plein de chiffres derrière et plein d'études qui l'expliquent, mais moi, je l'ai vu.
Et du coup, est-ce que tu as un conseil à un étudiant ou une étudiante qui voudrait se lancer dans la cyber?
Déjà, il faut avoir envie de le faire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose... Enfin, mais ça marche dans tous les domaines, hein. Il faut avoir envie de le faire. C'est un investissement permanent, mais comme dans l'IT, hein, il faut constamment rester au courant des nouvelles tendances,
de la veille,
etc. Et puis...
Go.
Ouais, go, il faut se lancer, quoi. Il y a plein de concepts théoriques. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait d'abord la pratique. Et là, honnêtement, je suis en train de travailler des certifications cyber parce que j'ai pas l'expérience. Ben, c'est la complémentarité des deux qui fait que ça apporte de la valeur aussi. Faut se lancer, en fait. Après, au pire, ça plaît pas, ça marche pas. C'est pas grave. On le sait. On passe à autre chose.
C'est clair.
Et moi, j'ai une autre question. Aujourd'hui, tu manages pas mal de gens. Je sais pas combien tu manages directement, mais c'est pas forcément des compétences que tu as acquises quand tu étais en études. Le management.
Non.
Comment tu les as acquises, ces compétences?
J'ai eu des formations. J'ai été formée à la Société Générale. J'ai eu des formations en management. J'ai un peu d'intuition aussi sur comment on motive des gens, comment on parle à des gens, quand on est dans une situation compliquée, quand on est dans une situation qui va bien. Dire merci, bravo à quelqu'un qui a réussi, ou bien dire à quelqu'un, là, c'était pas bien, il faut qu'on retravaille. Voilà, c'est des choses qui sont assez naturelles. Après, le reste, faut avoir envie du contact humain.
Moi, c'est clair.
Et faut avoir envie de faire de l'administratif.
Ah oui, c'est une grosse partie.
Il y a une bonne partie du travail du manager qui sont de l'administratif. Gestion des congés, gestion des présences, validation des avenants de télétravail, la performance, les objectifs, l'évaluation, la revue des salaires. Tout ça, ça fait partie du job de manager. Qui sont des tâches administratives. Ça occupe 20% du temps, à peu près.
Ouais, quand même.
Après, il y a du contact humain. Et ce qu'on oublie souvent de dire dans la gestion d'équipe, c'est aussi de la gestion de charges, de delivery. C'est-à-dire qu'on gère des gens, mais avec la finalité de livrer quelque chose. Il faut qu'on arrive à quelque chose. Donc, c'est l'équilibre entre les deux. C'est pas juste gérer des gens et comment tu vas et comment va ton chien et comment va ta maman et machin. C'est aussi, t'en es où de tel projet? C'est quoi les difficultés que tu rencontres? Comment je peux t'aider? C'est une combinaison des deux.
Okay. Et au final, pour toi, c'est quoi le plus difficile à gérer? C'est le technique ou l'humain?
C'est pas les mêmes problèmes. C'est une bonne question. Je pense que c'est l'humain, mais pas parce que pas parce que c'est des gens
en face,
c'est
parce
que les problématiques qui sont liées aux humains,
elles sont multiples.
On peut toucher à des problèmes de famille, de santé, qui sont intrinsèquement les raisons pour lesquelles on se lève le matin. Et c'est ça qui est le plus difficile, en fait. Techniquement, on arrivera toujours à trouver des solutions. C'est clair.
On a une petite surprise maintenant.
Ouais, on a une question à te poser.
Voilà.
Mais c'est pas nous qui allons te la poser. C'est quelqu'un que tu connais,
voilà.
Me semble-t-il.
Salut Nonor. Pendant nos 2 années de colocation, j'avais pas remarqué ton intérêt pour le secteur bancaire. Donc pour le coup, ça m'amène à une forte interrogation. Qu'est-ce qui fait que t'es allé faire ta carrière d'ingénieur SEO à la Société Générale? Salut, à bientôt, ciao.
Oh, c'était mon coloc. C'était pas prévu, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à l'opportunité. Cette société de service m'a placée à la en prestation à la Société Générale. Ils auraient pu me placer chez L'Oréal, chez Total, chez Decathlon, chez... Et je m'y suis plus. Et après, dans le parcours de carrière du groupe, bah, j'ai trouvé des choses qui m'ont plu, en fait. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai envie de travailler. J'ai eu des belles opportunités. Et j'ai pas envie de partir. Donc... J'ai rencontré plein de gens qui sont arrivés, qui sont repartis, Ezeo, pas Ezeo d'ailleurs. Mmh. Et puis, c'est un choix. Hein. Non, j'avais pas particulièrement envie de faire ma carrière dans une banque. Je disais tout à l'heure, ça fait 19 ans.
Ouais.
C'est pas un hasard parce que c'est choisi. Enfin, c'est des postes et des responsabilités, des évolutions de carrière que j'ai choisi. Certaines que j'ai provoquées. Mais c'était pas. Alors, j'ai jamais été très douée pour construire un plan de carrière. Ouais. De toute façon, je me suis jamais dit je veux être là à tel âge et je veux être là à tel âge et donc pour arriver là il faut faire ça, ça comme ça dans tel sens avec tel ordre, etc. Ça, je suis incapable de faire ça. Donc c'est plus. Là aujourd'hui j'en suis là. Ce qui me plaît c'est ça, c'est de travailler avec telle personne. Ou au contraire, là j'en ai un peu. J'ai l'impression que j'apprends plus rien et puis cette personne-là j'ai pas envie de travailler avec elle. On cherche une. Je cherche d'abord. Chez mon employeur, parce que je sais qu'il peut me proposer des évolutions. Et quand je dis évolution, c'est pas forcément vertical, hein, ça peut être aussi horizontal. Et il se trouve que pour l'instant, ça a toujours fonctionné.
Très bien.
Voilà.
Ok, bon, Sylvain.
Bon, bisous, hein, Sylvain.
juste pour terminer rapidement, on a un petit jeu de vrai ou faux.
Ouais.
Et on va te donner des affirmations. Il faut tout simplement te dire si c'est correct ou pas.
Ok.
Tu veux commencer, Anne?
J'y vais. Donc, au téléphone, il ne faut donner son mot de passe bancaire à personne à part à son conseiller bancaire.
Non, jamais, à personne.
C'est faux, il faut pas le donner du tout.
Deuxième, après le cambriolage des joyaux de la couronne en France, l'audit de la sécurité au Louvre a révélé que pour accéder au serveur de vidéosurveillance du musée, il suffisait de saisir le mot de passe Louvre.
Oui.
C'est drôle. Enfin, c'est drôle.
Est-ce que si on tape Société Générale à Société Générale, ça marche?
Non. Ça marche pas. Il y a une politique de sécurité des mots de passe.
Donc oui, c'était vrai. Selon Libération, je précise, c'est un article qui est sorti dans Libération. Ça a été un peu remis en question.
Ouais, je sais pas si c'est vrai.
Voilà, c'est un peu...
À vérifier. En tout cas, ça permet de sensibiliser tout le monde. Moi, j'ai dit à mes enfants, votre mot de passe, il doit faire au moins 12 caractères. Alors, on voit mon fils qui tape son mot de passe.
T'es rassuré?
Ok.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'audit a révélé quand même des failles dans la sécurité.
Mais des failles, il y en a toujours, sinon les attaquants, ils n'y arriveraient pas. Après, la question, c'est où est la faille? Où est la faille? Est-ce qu'on était au courant et est-ce qu'on a fait quelque chose pour s'en prémunir? C'est ça. Mais des failles, il y en a partout.
Ouais.
Ça arrive à tout le monde de partir en laissant une fenêtre ouverte, chez soi.
Troisième question. En 2017, un ransomware a paralysé les hôpitaux britanniques, causant l'annulation de près de 1400 opérations chirurgicales. Tout ça à cause d'un Windows non mis à jour. C'est vrai, c'est faux?
Je sais pas. Alors là, pour le coup, je ne sais pas.
Eh bien, figure-toi que c'est vrai. Il s'agit de WannaCry, l'une des plus grandes cyberattaques mondiales.
Oui, je savais qu'il y avait eu ça. Maintenant, est-ce que c'était dû à un Windows non patché précisément dans un coin? Oui, WannaCry, ça a été terrible. Il y en a eu d'autres après. Il faut patcher. Je sais que c'est toujours pénible quand on a besoin de redémarrer
le système.
Et sur les téléphones aussi.
Ouais. Moi, je le fais peut-être pas tout.
Et puis sur les frigos, les voitures, tout ce qui est connecté.
Ouais.
Il faut le faire partout.
OK. Quatrième. La cyberattaque la plus coûteuse de l'histoire est celle contre Yahoo en 2013 avec une violation des données de plus de 3 milliards de comptes et 3 à 5 milliards de dollars de dégâts estimés.
Je sais pas. Je ne sais pas.
Je crois que c'est la deuxième. La réelle cyberattaque la plus coûteuse, c'est NotPetya en 2017.
Ah, NotPetya. Bah, c'est WannaCry, Petya, c'est pareil.
Estimé à 10 milliards de dollars.
Ça fait beaucoup d'argent quand même.
C'est une somme. Voilà, c'est un ransomware ukrainien qui a été conçu pour infliger des dégâts massifs à des entreprises multinationales, à des ports, à des aéroports. Et voilà, c'était un gros dégât.
Allez, cinquième question. 10% des entreprises déclarent avoir subi au moins une cyberattaque significative en 2025.
Ah oui, c'est au moins, oui. C'est plus que ça.
C'est beaucoup plus que ça, t'as raison. C'est 30 à 60% des entreprises.
Après, ça ne veut pas dire qu'elle a un impact.
Bien sûr.
Mais regardez Free, Speedy.
Colis privé, machin. Voilà.
Tout ça.
Ouais.
On dit qu'il faut protéger nos données, donc on se les protège nous, mais en fait, elles sont déjà dans la nature. D'où l'intérêt d'être vigilant quand on voit des trucs bizarres arriver.
Ok. Avant-dernière, la clé USB est le point d'entrée de la majorité des attaques de logiciels malveillants.
Oh, je pense pas que ce soit la clé USB, mais ça doit jouer, mais je suis pas sûr que ce soit la clé USB. Si ?
Non, c'est pas là, t'as raison. C'est le mail.
Ouais.
Avec des liens et des pièces jointes douteuses.
Ceci dit, se protéger des problèmes de clé USB, c'est assez simple. On bloque les ports.
Ouais. Alors, comment ça, on bloque les ports?
Bah, tu empêches la lecture d'une clé USB sur un poste de travail.
Sans tu sais, mettre l'antivirus, tout ça.
Tu peux. Oui, mais bloquer. Je veux dire, quelqu'un qui te ramasse une clé USB dans son lieu de travail, qui est piégé. C'est lui qui va le mettre de son plein gré.
Ah oui, mais si. Alors déjà, il faut pas faire ça.
Bah, justement.
et deuxièmement, dans les entreprises, la plupart des entreprises, en tout cas les chez nous, il y a un blocage. C'est-à-dire que même si tu branches une clé USB sur ton poste de travail,
okay, y a
rien ne se passe, puisque de toute façon, tu n'as pas le droit de lire ce qui est écrit sur les ports USB.
Et la dernière question. Donc Céline Berton, qui est aujourd'hui à la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc une des plus hautes instances qui traite de cybersécurité en France, elle a été victime de fausses rumeurs sur les réseaux.
Oui, ça c'est possible. Hein,
c'est vrai. Elle a été visée en juillet 2025 par des fausses rumeurs d'annonce de démission propagées par des sympathisants du Kremlin. Ouais. Si elle fait peur à la Russie, c'est qu'elle doit faire des trucs bien.
Probablement.
Ouais.
Le géopolitique dont on parlait tout à l'heure.
Exactement.
Bon, Anne-Laure, merci beaucoup d'être venue.
Merci beaucoup.
C'était super intéressant.
Ouais, c'était vraiment super intéressant. Sincèrement.
Ouais. Merci beaucoup.
Électron Libre by Ezeo. Disponible sur toutes les plateformes et en replay sur radiocampusangers.com.